À l'intérieur de votre bulletin, il y a une feuille avec presque tous les versets que nous allons voir. Et je vous encourage à prendre soit votre Bible ou soit votre feuille. Et on va faire notre déclaration qu'on aime faire le dimanche matin. Parce que je crois que quand on vient le dimanche matin, on devrait être vraiment dans l'expectative, croyant et sachant que Dieu est là, que sa parole est vraie, que sa parole est vivante et que nous allons être transformés. Ce n'est pas l'information qu'on veut, c'est la transformation. Est-ce que vous êtes d'accord? Combien de vous, vous avez des choses que vous voulez voir changer dans votre vie? Moi aussi. Et vous savez que c'est la parole qui a le pouvoir, qui a l'autorité de vous transformer. Et c'est pourquoi on va faire cette déclaration. Voici ma Bible. C'est la parole vivante de Dieu. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la parole vivante de Dieu. Je ne serai jamais plus pareil. Mais je serai pour toujours changé. Au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Donc, vous pouvez vous asseoir. Et si vous avez votre Bible avec vous, j'aimerais vous encourager à aller avec moi en Actes. Chapitre 13, et on va commencer une petite série ce matin, ça va durer probablement 3 semaines, incluant cette semaine, et on va voir les choses dans la parole de Dieu qui sont tellement bons, tellement importants, et on va voir comment vous et moi nous pouvons saisir notre destinée. Tout le monde dit saisir votre destinée. Combien de vous, vous savez que vous avez une destinée ici sur la terre? Vous n'êtes pas ici par hasard, même si maman et papa disent que vous êtes en accident, vous n'êtes pas ici par hasard, amen? Dieu savait que vous seriez là, et Dieu a un plan pour votre vie. En fait, qu'est-ce que nous voyons, c'est que Dieu a un plan pour la race humaine et pour chaque membre de la race humaine. Dieu n'est pas surpris à chaque fois. Vous savez que Dieu n'attend pas recevoir la parole ou l'express pour savoir qu'est-ce qui se passe à Drummondville? Combien de vous, vous savez, hein? Il n'a pas besoin de lire la Gazette ou quoi que ce soit pour savoir ce qui se passe à Montréal. Il n'a pas besoin d'aller sur l'Internet ou regarder les émissions à la télévision de savoir ce qui se passe. Dieu sait toutes choses en avance. Amen? Dieu savait que vous seriez né. Dieu savait que vous seriez là aujourd'hui. Et Dieu a un plan pour votre vie. En fait, la Bible dit que vous avez été tissé vraiment par les mains de Dieu dans le ventre de votre mère. Dieu a une destinée pour votre vie. Amen. Tout le monde dit, j'ai une destinée. Et maintenant, regardez votre voisin et dites, je vais la saisir. Alléluia. Dieu a une volonté pour votre vie. Et ce que vous faites dans votre vie est important. Parce que vous savez que le plan universel de Dieu est énorme. Qu'est-ce que Dieu veut? C'est quoi son plan? Si on pourrait dire, juste en général, c'est quoi le plan de Dieu pour la race humaine? Le plan de Dieu pour la race humaine, c'est de les racheter. C'est de les ramener à lui. C'est de fonder et d'établir une famille spirituelle et éternelle. Amen? Dieu aime le monde. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et qu'est-ce qu'on doit jamais oublier, c'est que Dieu aime tout le monde. Il aime chaque membre de la race humaine. Il aime les gens qui habitent ici au Québec et au Canada. Il aime les gens qui habitent aux États-Unis et au Mexique. Mais vous savez, le monde est beaucoup plus grand que l'Amérique du Nord. Il y a des nations ici sur la terre. Maintenant, il y a plus de gens qui sont en vie que jamais dans l'histoire de l'humanité. Au-dessus de 6 milliards d'âmes qui sont sur la planète. Et vous savez que la moitié de ces âmes n'ont jamais entendu l'Évangile de Jésus-Christ. Jamais. Quelque chose, n'est-ce pas? Et Dieu ne veut pas qu'ils périssent. En fait, la Bible est claire que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Il veut que chaque homme, chaque femme, chaque enfant vienne à la repentance. Dieu a un plan. Amen. Et vous faites partie de son plan. Amen. Et si vous ne faites pas ce que vous êtes appelé à faire, si vous ne saisissiez pas votre destinée, il y a d'autres personnes dans ce monde qui vont souffrir. Il y a d'autres personnes dans ce monde qui vont manquer. Et peut-être même des personnes qui vont manquer le ciel parce que vous ne faites pas ce que vous êtes destiné à faire. Donc, vous savez, dans un sens, c'est une chose, on pourrait dire égoïste, parce que c'est toujours bénissant de faire la volonté de Dieu. C'est toujours plus agréable de faire la volonté de Dieu. C'est toujours plus fructueux de faire la volonté de Dieu. Mais laisse-moi vous dire, ce n'est pas juste important pour vous ou pour moi. Ce n'est pas juste une chose qui est importante pour notre église ou même pour notre ville. Mais c'est une chose qui est importante. Moi, je crois que cette église, par exemple, a une destinée à faire un impact sur la ville de Drummondville, la province du Québec, la francophonie et au-delà. Mais c'est une chose qu'une personne ne peut pas faire seule. C'est une chose que ça prend chaque membre du corps, chaque membre de la famille qui saisit sa destinée. C'est là qui va amener à fruition tout ce que Dieu a planifié de faire. Et n'est-ce pas merveilleux de savoir que Dieu a un plan et que vous faites partie de son plan? Alléluia. On va lire quelque chose en Actes chapitre 13 à propos d'un homme qu'on aime bien dans la parole de Dieu qui s'appelle David. Est-ce que vous aimez l'histoire de David? Moi, j'aime l'histoire de David parce que je vois que David, c'était un homme normal, un homme naturel qui a été utilisé surnaturellement par un Dieu qui est extraordinaire. Un homme ordinaire qui a été utilisé par un Dieu extraordinaire. Mais en Actes chapitre 13, verset 36, ça donne un peu l'histoire d'Israël. Et ici, dans le verset 36, c'est marqué « Ils demandèrent alors un roi ». Ça parle d'Israël, la nation. Et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. C'est qui a donné ce témoignage? C'est Dieu. Et voici, on va lire qu'est-ce que Dieu a dit à propos de David. Dieu a dit, « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. » Ça, c'est un bon témoignage d'avoir de la part de Dieu, n'est-ce pas? Ça, c'est une chose. Est-ce que vous êtes là ce matin? À vous qui sommeillez, ne sommeillez plus. On parle de votre destinée. On parle de l'accomplissement du plan de Dieu pour votre vie et pour notre vie et pour notre pays et pour le monde entier. Si je ne fais pas ce que Dieu m'a appelé de faire, le plan de Dieu ne sera pas complété comme Dieu veut. Mais moi, je vais faire ce qu'il m'a demandé de faire. Et vous? Et là, on voit que David a eu ce témoignage de la part de Dieu. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. Posez-vous la question ce matin. Si quelqu'un demanderait à Dieu le Père aujourd'hui, c'est quoi le témoignage que tu peux donner de Pierre, ou de Daniel, ou de Céline, ou de Tania, ou de moi-même? C'est quoi le témoignage que tu donnerais de cette personne-là? Qu'est-ce que Dieu dirait à ton propos? Bonne question, n'est-ce pas? Et voici qu'est-ce qu'il a dit à propos de David. Il a dit, « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur. » Pourquoi est-ce que David était un homme selon le cœur de Dieu? Voulez-vous être un homme selon le cœur de Dieu? Voulez-vous avoir ce même genre de témoignage de la part de notre Père Céleste? Mais voici pourquoi Dieu a dit, « C'est un homme selon mon cœur, parce qu'il accomplira toutes mes volontés. » Autrement dit, « Il accomplira toutes mes volontés. » Dis ça encore deux fois, « Toutes mes volontés. » Encore une fois, « Toutes mes volontés. » Voici Dieu en plan. Il y a plusieurs choses dans son plan. Il y a des étapes dans le plan de Dieu. Et Dieu savait que David, c'était un homme, que même s'il allait faire des erreurs, même s'il était sûrement capable, et on a vu dans la parole qu'il est tombé, il a trébuché plusieurs fois, Dieu savait que malgré les problèmes, malgré les tentations, malgré les échecs, David, c'est quand même un homme qui va faire et qui va accomplir toutes mes volontés. Amen. Et ça, c'est ce que je veux que Dieu dise à mon sujet. Je veux être un homme qui va accomplir toute la volonté de Dieu. Je ne veux pas juste commencer, mais je veux finir ce que Dieu a commencé dans ma vie. Et vous? Alléluia! Et c'est ça vraiment le but de cette série. Je vais vous donner des choses pratiques, comment vous et moi, nous pouvons devenir les hommes et les femmes qui sont capables de faire toute la volonté de Dieu. On lit plus tard en Actes chapitre 13, verset 36, « Pourtant, David, après avoir en son temps contribué à l'accomplissement du plan de Dieu, Alléluia. Il est mort et fut enterré aux côtés de ses ancêtres. Il a donc bel et bien subi la décomposition. Ça, c'est fort. Mais je veux souligner quelque chose. Dieu a dit, j'ai trouvé David, un homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce qu'il accomplira toutes mes volontés. Et plus tard, on voit que David, après, tout le monde dit après. Dis ça encore, après. Pas avant, mais après avoir accompli. Et après avoir servi, je pense que vous avez eu quelques messages sur l'importance de devenir serviteur, n'est-ce pas? La Bible dit qu'après avoir servi, quoi? Le dessein de Dieu, ou on peut dire le plan de Dieu, quelques traductions disent dans sa génération, ou on peut dire pour sa génération. Dieu a un plan pour notre génération. Dieu a un dessein pour notre génération, et David savait que Dieu avait un plan pour sa génération. Et Dieu a dit à propos de David, c'est un homme selon mon cœur, il accomplira toutes mes volontés, et il l'a fait. Amen. Il a servi, pas David, il n'a pas servi David, il a servi le plan de Dieu dans sa génération. Et après avoir servi le plan de Dieu et le dessein de Dieu, il est mort. Combien de vous savez que nous allons tous mourir un jour? On croit à la guérison divine. Combien de vous croyez à la guérison divine? Et je crois que le plan de Dieu, c'est de nous garder en bonne santé jusqu'au moment où on peut dire avec David, j'ai servi le plan de Dieu et le dessein de Dieu pour ma génération. Et une fois que j'ai vraiment la conviction dans mon cœur que j'ai accompli le plan de Dieu, que j'ai achevé ma course, que j'ai saisi ma destinée, là, je vais mourir. Mais pas avant, mais après. Bonne nouvelle, n'est-ce pas? Et laisse-moi vous dire, Dieu a un plan pour votre vie. Vous faites partie de son dessein. Dieu veut que vous serviez son plan et son dessein dans cette génération. Dieu veut que vous fassiez toutes ses volontés. Et si vous faites toutes ses volontés, vous allez être une femme selon son cœur. Et vous allez avoir saisi votre destinée. N'est-ce pas bon? Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui commencent dans la vie chrétienne. Ils commencent avec ferveur, ils commencent avec ardeur, ils commencent avec une vision, ils commencent à courir avec le Seigneur et marcher avec le Seigneur. Mais il y a beaucoup moins de gens qui vont finir avec le Seigneur. Est-ce que j'ai raison? Mais Dieu veut qu'on commence et qu'on continue et qu'on accomplisse complètement ce qu'il a destiné pour nos vies. Amen? Paul était un homme qui était capable de dire, ici, en 2 Timothée, chapitre 4, c'est dans vos notes, verset 7. J'ai combattu. Ça, c'est passé. C'est pas une chose qu'il a, il n'a pas dit, j'ai voulu combattre, mais il a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Et puis, il continue et il dit que maintenant, je sais qu'il y a une couronne qui m'attend. Il y a une récompense. Je vais être rémunéré pour qu'est-ce que j'ai fait. Parce que j'ai accompli toutes les volontés de Dieu. Amen. Et vous savez, votre vie, la Bible dit, est comme une vapeur qui est apparue pour quelques instants et qui va bientôt disparaître. Même si vous vivez 120 ans, laisse-moi vous dire que 120 ans comparé à l'éternité, c'est rien. Vous êtes d'accord? Je veux dire, et vous parlez avec les personnes qui sont moins jeunes. Et souvent ils vont dire, vous savez, dans mon cœur, c'est comme si j'ai 20 ans. Souvent, les personnes, je parle souvent avec des personnes qui ont 80, 90 ans. Ils ont dit, mais tu sais, dans mon cœur, je ne ressens pas vraiment une différence. C'est comme si j'ai 20 ans. Dans mon corps, c'est une autre histoire. Je me regarde dans le miroir et je dis, oh, je n'ai plus 20 ans. Mais dans mon cœur, c'est comme si j'ai 20 ans. Je suis jeune. Pourquoi? Parce que nous sommes un esprit. Mais ça nous montre une chose, c'est que la vie passe vite. Hein? Votre vie sera bientôt passée. Seulement ce qui est fait pour Jésus va durer. Amen. Alors donc, et c'est pourquoi il faut qu'on prenne cette décision. Seigneur, je veux saisir ma destinée. Je veux faire qu'est-ce que tu m'as appelé de faire. Je veux accomplir toutes tes volontés. Je n'ai qu'une seule vie à vivre et je veux investir ma vie pour vraiment le royaume de Dieu et pour ta gloire. Je sais que c'est votre désir, n'est-ce pas? Je veux arriver à la fin de ma vie, je veux voir Jésus un jour et je veux entendre les paroles qui vont sortir de la bouche de mon Seigneur, qui vont dire, tu as bien fait, bon et fidèle serviteur. Amen. Moi, je ne veux pas arriver au ciel devant le Seigneur et je ne veux pas être déçu ou avoir des regrets. Je ne veux pas voir qu'est-ce que j'aurais pu faire. Je veux voir qu'est-ce que j'ai fait. Amen? Hallelujah. Et vous pouvez accomplir sa volonté. Vous pouvez saisir votre destinée. On voit quelques clés dans ce que Paul a écrit selon la direction et sous l'inspiration du Saint-Esprit en 2 Timothée chapitre 2. Allons-y à 2 Timothée chapitre 2 et on va commencer à verset 3. Alléluia. Combien de vous voulez saisir votre destinée? Si vous saisissez votre destinée pour votre vie individuelle, nous allons pouvoir saisir notre destinée comme église locale. Amen. Nous allons faire un impact sur cette ville, sur cette province, sur la francophonie et au-delà, seulement si chaque membre de l'église saisit sa destinée. Amen. Alléluia. En 2 Timothée chapitre 3, on voit le secret. On voit pourquoi Paul était capable de dire à la fin de son ministère que j'ai combattu le bon combat. Et juste en passant, vous savez c'est quoi le bon combat de la foi? C'est le combat qu'on gagne. Amen. Si on ne gagne pas, ce n'est pas un bon combat. Hein? C'est une bonne perte. Une bonne perte, on pourrait dire. Mais là, on voit qu'il a combattu le bon combat. Il a achevé la course. Il a gardé la foi. Et voici en 2 Timothée, chapitre 2, on va voir un peu quelques secrets. Et aujourd'hui, on va voir un peu plus de près une de ces choses. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Combien de vous, c'est votre désir de faire plaisir à Dieu, hein, d'être agréable à lui. Alléluia, de faire ce qu'il veut qu'on fasse. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur, alléluia, qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Donc ici, on voit que dans le cœur de l'apôtre Paul, il se voyait de trois manières. Il se voyait comme un soldat, tout le monde dit un soldat. Il se voyait aussi comme un athlète, tout le monde dit un athlète. Et il se voyait aussi comme un fermier, tout le monde dit un fermier. Et si vous voulez saisir votre destinée, il y a des choses que vous avez besoin de développer. Vous avez besoin de développer le courage et le caractère d'un soldat. Comment on dit un soldat? Vous avez besoin de développer aussi la discipline et la persévérance d'un athlète. Comment on dit un athlète? Et vous avez besoin aussi de développer la foi et la patience d'un fermier. Comment on dit un fermier? Est-ce que tout le monde est là ce matin? Comment on dit je suis un soldat, un athlète et un fermier? Aujourd'hui, on va juste regarder quelques minutes. On va voir un peu plus le côté du soldat. Comment développer le caractère d'un bon soldat de Jésus-Christ? Parce que ici, c'est pas par hasard que Paul dit sous l'inspiration de l'Esprit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Combien de vous avez découvert que dans la vie, il y a des combats? Hein? C'est pas toujours facile. Même si on devient chrétien, il y a des combats. On a un ennemi. Et notre ennemi désire nous opprimer, nous voler et nous détruire, n'est-ce pas? Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons les promesses, nous avons l'autorité, nous avons les armes, nous avons tout ce qui est nécessaire pour combattre et pour gagner. On va pouvoir dire avec Paul, j'ai combattu le bon combat de la foi. Amen. C'est-à-dire que j'ai gagné. Tout le monde dit, je vais gagner. Est-ce que vous êtes convaincu? Et il y a des journées où vous êtes moins convaincu, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes convaincu que vous allez pouvoir gagner dans votre mariage? Il y a des journées où c'est moins évident, n'est-ce pas? Êtes-vous convaincu? Et je veux que vous sachiez, Dieu a un plan pour la race humaine. Et vous faites partie de son plan. Et ce que vous faites dans votre vie est très important. Votre vie compte. Ce que vous faites, les décisions que vous prenez, la personne avec qui vous allez vous marier, les personnes pour qui vous allez travailler, toutes ces choses sont des choses que des fois on dit, ben, je vais juste choisir qu'est-ce que je veux, je vais juste faire qu'est-ce que je veux faire, et peu importe, les choses vont bien aller. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Moi, je crois qu'on a besoin de chercher la face de Dieu et de savoir c'est quoi sa volonté dans ces choses. Et si on fait des mauvais choix, si on prend les mauvaises décisions, Dieu est plein de grâce, il est plein de miséricorde, et il peut toujours, toutes choses concourent au bien pour ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son nom. Amen. Donc, même si vous avez fait des erreurs, même si vous pensez, je me suis marié avec la mauvaise personne, c'est pas grave, ça ne veut pas dire que vous devrez vous divorcer. Vous devriez suivre le plan de Dieu et la grâce de Dieu, et il va vous mettre directement au plein centre de sa volonté. Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie est important. Mais il y a un ennemi qui veut vous contester. Il y a un ennemi qui veut vous écraser. Il y a un ennemi qui veut vraiment vous empêcher de faire la volonté de Dieu pour votre vie. Parce que si vous êtes empêché, l'Église locale est empêchée. Et si l'Église locale est empêchée, l'Église universelle est empêchée aussi. Tout le monde dit « ma vie compte pour Dieu ». Et qu'est-ce que vous faites dans la vie est aussi important que qu'est-ce que je fais dans la vie. Est-ce que tout le monde est supposé d'être un prédicateur ou est-ce que tout le monde est supposé d'être prophète? Non! On voit en Hébreux chapitre 11, on voit les bons soldats de la foi, ceux qui ont été utilisés puissamment par Dieu, et on voit les prédicateurs, on voit les prophètes, mais on voit aussi les parents de Moïse. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un bon panier pour cacher le bébé. Mais combien c'est important qu'ils ont fait cela. Amen. Des fois, vous pensez que qu'est-ce que vous faites à la chape ou à l'usine, c'est pas vraiment significant. Oui, ça compte. C'est important. Vous élevez les enfants. Laisse-moi vous dire, c'est important. L'autre jour, je lisais en Matthieu chapitre 1, je lisais la généalogie de Jésus-Christ. Combien de vous avez lu la généalogie de Jésus-Christ? C'est pas la plate, n'est-ce pas, à lire? Et on voit tous les noms de toute la parenté de Jésus. Et moi, je vais reconnaître peut-être 3, 4, 5 noms dans la liste. Mais ça m'a frappé. Juste l'autre jour, le Seigneur a vraiment impressionné à mon cœur. Vous savez, même si vous ne connaissez pas qui sont ces autres personnes qui sont mentionnées, leur vie ont été vraiment importantes au plan de Dieu. Si cette personne ne s'est pas mariée avec la bonne personne et s'ils n'auraient pas eu tel enfant, Jésus n'aurait pas été né quand il est né et comment il est né. Amen. Donc, vois-tu, on ne parle pas des choses spectaculaires quand on parle de saisir notre destinée. Des fois, saisir votre destinée, c'est de savoir comment travailler mieux que qui que ce soit à la chape. Amen. Des fois, c'est d'être fidèle à changer les couches dans la pouponnière. Des fois, c'est juste d'être fidèle à élever vos enfants ou de prier pour les personnes ou de donner. Vois-tu, ce n'est pas des choses spectaculaires qui comptent. Tout ce qui compte, c'est que vous fassiez la volonté de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Alléluia! On parle de comment saisir votre destinée. Mais ici, on voit que Paul avait l'attitude d'un bon soldat de la foi. Et je pensais à ça l'autre jour même, quand on était en Virginie pour la conférence sur les missions avec l'église là-bas. Et la ville, c'est une petite ville qu'on a visitée qui s'appelle Bedford dans la Virginie. Et eux autres, ils ont quelque chose d'intéressant qui vient de bâtir et construire. C'est un monument qui a été construit pour honorer tous les pays et tous les hommes et les femmes qui ont participé dans le débarquement en France, le jour J. Comme vous savez, c'est quoi le jour J? Hein, le 6 juin 1944, il y avait une force internationale, les Canadiens, les Américains, les Français, il y avait plusieurs autres pays qui ont participé. Et pourquoi? C'est parce que tout le continent de l'Europe de l'Ouest a été sous le contrôle et l'oppression du régime de Hitler. C'était quelque chose, hein? Et pendant des mois et des mois et des mois, il y avait des Canadiens, des Québécois même, et des Américains, des Français qui travaillaient ensemble pour se préparer, pour s'entraîner afin de traverser la Manche et afin de débarquer sur les plages de Normandie et de libérer le continent de l'Europe. Et cette journée-là, il y avait plus de... Si on regarde les États-Unis et toutes les villes et la grandeur des villes, la ville de Bedford dans la Virginie a perdu plus d'hommes que n'importe quelle ville aux États-Unis. C'est pourquoi ils ont choisi Bedford pour ériger. C'est un grand monument. Mais avec quelque chose que, quand j'étais là, je lisais plusieurs choses concernant l'histoire du jour J et concernant le débarquement en France. Et je voyais, il y avait plusieurs statues qu'ils ont fait, les images des soldats qui représentaient les hommes qui ont libéré la France. Mais je voyais dans ça, il y avait un thème qui était continuellement répété. Ils ont dit que nous avons érigé ce monument pour se souvenir et pour honorer trois choses, trois caractéristiques de ces hommes qui ont libéré la France. C'était la vaillance, tout le monde dit la vaillance. La fidélité, tout le monde dit la fidélité. Et le sacrifice. Tout le monde dit encore la vaillance, la fidélité et le sacrifice. Il y avait un job à faire en 1944. Et si ces hommes n'auraient pas été prêts à faire ce job, on ne serait peut-être pas aujourd'hui vivant dans le monde qu'on vit aujourd'hui. N'est-ce pas vrai? Qui sait qu'est-ce qui aurait se passé si Hitler aurait eu l'occasion de continuer son oppression? Qui sait qu'est-ce qui aurait se passé? Mais là, on voit que ces hommes ont eu la vaillance nécessaire, ils ont eu la fidélité nécessaire et ils ont fait les sacrifices nécessaires pour libérer le peuple de l'Europe. Et je pensais à ça et je me suis dit, vous savez, dans le fond, ce sont les caractéristiques, les qualités bibliques. La vaillance, la fidélité et le sacrifice. Si nous allons saisir notre destinée, il faut qu'on développe le courage et le caractère d'un bon soldat de la foi. On n'est pas ici juste pour avoir du fun, mais on est ici pour aller libérer ceux qui sont opprimés par le diable, ceux qui sont les captifs du diable, ceux qui sont dans le péché, dans la maladie, dans la pauvreté. Nous sommes appelés à être une force libérateur qui va aller libérer ces âmes entre les griffes du Satan, n'est-ce pas? Combien de vous voulez aller libérer les hommes? Hallelujah! Mais si on va libérer ces hommes, il faut qu'on développe le caractère d'un bon soldat. La vaillance, la fidélité et le sacrifice. Encore, Tanya et moi, on a vécu en France quelques ans. Et on a vécu avec les hommes et les femmes qui ont subi l'oppression des nazis. On a vécu avec on avait des voisins, notre voisine qui habitait juste en bas de nous, elle nous disait un jour, tu sais, sur la colline juste en arrière de chez nous, juste là, quelques centaines de pieds, c'est là qu'ils ont exécuté, ils ont tiré sur plusieurs des Français hein, qui étaient dans la résistance. Les nazis ont tué les hommes, juste là. On a été en Pfaffenhoffen en France, ou une ville qui a été d'un côté à l'autre changée de pouvoir plusieurs fois pendant la guerre. Et vous savez, j'ai remarqué une chose, que toutes ces personnes de cette génération qui ont subi l'occupation des nazis, ils sont tellement reconnaissants pour les Canadiens et les Américains. On parle avec eux et c'est comme aujourd'hui, même si c'est plus de 50 ans plus tard, ils sont reconnaissants. Et il nous remercie, merci d'être venu nous libérer. Et je me suis dit, si les hommes naturels sont tellement reconnaissants d'avoir été libérés pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, pensons à qu'est-ce qu'on va voir et qu'est-ce que nous allons vivre au ciel. Quand on arrive au ciel et des multitudes des hommes, des femmes qui ont été prisonniers de Satan, quand ils viennent nous dire merci d'être venus. Merci d'avoir prêché l'Évangile. Merci d'avoir partagé votre vie avec moi. Merci d'avoir eu la vaillance, la fidélité et d'avoir fait les sacrifices nécessaires d'avoir annoncé la bonne nouvelle à moi. Amen. Je sais que le message aujourd'hui, c'est peut-être moins excitant que quelques autres messages. Quand on parle du fait que Dieu veut que vous prospériez financièrement, Dieu veut que vous soyez guéris. Oui, toutes ces choses sont vraies. Mais Dieu veut que vous soyez un bon soldat de la foi. Et moi, en tout cas, moi, je veux aller de l'avant et faire la volonté de Dieu dans cette ville, dans cette province, dans la francophonie et au-delà. Amen? Et si on va le faire, si on va saisir notre destinée, ce n'est pas une chose qui va arriver automatiquement ou par hasard. Il faut qu'on développe le caractère d'un bon soldat de Jésus-Christ. La veillance. Première chose, la veillance. Ayez du courage en sachant que Dieu est avec vous. Savez-vous que ça prend du courage? Ça prenait du courage pour les hommes le 6 juin 1944 Combien de vous avez vu des documentaires, les images de, des véhicules du transport qu'ils ont dû utiliser pour arriver à la plage? Et on a un documentaire qu'on a acheté le 50e anniversaire d'aujourd'hui. Parce que quand on est revenu de la France, c'était 50 ans, le 6 juin, 50 ans plus tard. Ils vendaient ça dans l'aéroport. Et il y a une phrase dans la vidéo qui dit « Regardez ces hommes, regardez leur visage, nous leur devons notre liberté aujourd'hui. » Et on voit dans les visages de ces hommes, ils avaient peur dans le naturel. Ils n'avaient pas hâte d'aller sur la plage et d'être accueillis par les balles et par les bombes et par les mines et toutes les autres choses. Ils n'avaient pas hâte de voir ça. Mais ils avaient le courage nécessaire. Ça, c'est quelque chose, n'est-ce pas? Hein, de débarquer sur une plage avec des centaines de livres d'équipement et d'aller à l'attaque en face d'un ennemi qui vous déteste et qui veut vous faire planter. Mais si... Elles sont prêtes et ils avaient la capacité d'avoir autant de courage pour aller à l'attaque dans le but de libérer le peuple de la France et dans le fond le monde entier. À combien plus fort raison est-ce que nous devrions avoir le courage d'aller parler avec notre voisin de l'Évangile de Jésus-Christ? Hein? Oh, mais des fois on a peur. Oh, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Ils vont penser que je suis dans un secte ou quelque chose de même. J'ai peur de parler de Jésus. Laisse-moi vous dire une chose. Hein? Si les hommes sont prêts à faire face aux balles, je pense qu'on devrait être capable de faire face à un peu de critique à l'occasion, n'est-ce pas? Si vous voulez saisir votre destinée, ça va prendre du courage. Vous dites, mais moi, je ne ressens pas vraiment le courage dans mon cœur. Laisse-moi vous dire, quand Dieu vous voit, il voit un homme et une femme de courage. Mais tu ne me connais pas, je suis timide. Laisse-moi vous rappeler l'histoire de Gédéon dans la parole de Dieu. Gédéon, c'était un homme qui vivait sous l'oppression de l'ennemi, des Midianites. Tout le pays était vraiment terrorisé par cet ennemi. Et puis, je vais juste lire dans vos notes, Juges 6, versets 11 à 16. « Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Et Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et dit, « L'Éternel est avec toi. » Regardez votre voisin et dit, « L'Éternel est avec toi. » L'Éternel est avec toi, hein, vaillant héros. Et là, Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a pas fait monter hors d'Égypte. » Je veux que vous voyez, Gédéon, au lieu d'être en train de battre le froment sur la colline, là où il est supposé de le faire, où le vent peut amener le chef, je ne sais pas comment dire ça, au lieu d'être sur la colline, en vue de tout le monde, il a peur, il est intimidé par l'ennemi, et il se cache dans le pressoir, et il est en train de battre le blé et de préparer des choses là. À la cachette, il a peur, il est intimidé. Mais quand Dieu arrive, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et quand Dieu nous voit, il ne voit pas une église timide. Il voit une église qui est pleine d'assurance, qui est pleine d'hardiesse et qui est pleine de courage. Amen. Et si vous ne vous voyez pas comme ça, vous devriez changer votre façon de penser. Vous devriez renouveler votre intelligence avec la parole. Regardez-vous dans le miroir et dites, bonjour. Vaillant héros. Oh, que tu es courageux aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tu es courageux? Parce que l'Éternel est avec moi. Dieu est avec moi. Et si Dieu m'envoie faire quelque chose, il va me donner le succès. Amen. Est-ce que vous êtes là? Je prêche les choses que le Seigneur a mis dans mon cœur et je pense que c'est exactement ce dont nous avons besoin ce matin. Alléluia. L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne, c'est ça que Gédéon dit, et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Combien de vous avez eu des sentiments comme Gédéon? « Oh, mais ma famille est petite, ou j'ai pas de force, je peux pas faire grande chose, je suis pas un prédicateur, je suis pas pasteur, qu'est-ce que je peux faire pour le royaume de Dieu? » Le Seigneur te regarde aujourd'hui et dit, « Va avec la force que tu as, je serai avec toi, et tu vas vaincre l'ennemi comme un seul homme. » Amen? Tout le monde dit, « Je suis un vaillant héros. » Alléluia, tu es un bon soldat de Jésus-Christ. La vaillance fait partie de ton caractère. Deuxième chose, c'est la fidélité. C'est bon d'être vaillant, c'est bon d'avoir du courage, mais ce n'est pas assez. Si on a du courage pour 5 minutes, ce n'est pas suffisant. Si on a du courage pour 5 jours, ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce que Dieu veut, c'est qu'on a du courage lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, tous les jours de notre vie. Dieu veut qu'on soit fidèle. Il veut qu'à chaque fois que nous recevions quelque chose à faire, et à chaque fois que Dieu nous demande de servir le plan de Dieu et le dessein de Dieu dans cette génération, Dieu veut qu'on poursuive chaque mission que le Seigneur nous confie sans faire des compromis. Amen? La fidélité. Comment est-ce qu'on peut développer la fidélité? Dans les petites choses. Comment on dit la petite chose? Il faut être fidèle dans les petites choses. Ceux qui sont débarqués le 6 juin 1944, ils ne sont pas arrivés de la Virginie ou du Québec. Ils ne sont pas partis lundi pour arriver en France mardi. Ils sont allés en Angleterre et pendant des mois et des mois et des mois, ils se sont entraînés. Ils ont appris comment utiliser les armes. Ils ont appris comment avoir du respect pour les officiers. Ils ont appris comment travailler ensemble comme une équipe, comme une armée, n'est-ce pas? Et ça, c'est des choses qui sont importantes. Dieu veut qu'on soit fidèle dans les petites choses. C'est votre destinée, laisse-moi vous dire une chose. Le succès, ce n'est pas juste une destinée, une place où vous allez un jour arriver. Le succès, c'est un voyage, c'est un processus. Et Dieu veut que vous ayez du succès à tous les jours. Ça se peut qu'il y a quelques-uns ici qui vont être envoyés en Outre-mer. Il y a quelques-uns de vous, je sais, que vous serez envoyés un jour dans un autre pays pour prêcher l'Évangile. Mais vous n'êtes pas prêt aujourd'hui. Vous avez besoin d'être fidèle au plan de Dieu aujourd'hui. Il y a d'autres personnes que vous n'allez jamais quitter le Canada, peut-être. Mais vous allez jouer votre rôle dans le plan de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu nous demande de faire aujourd'hui? C'est d'être fidèle dans les petites choses. Peu importe qu'est-ce que Dieu nous demande de faire. Peu importe la mission qu'il nous demande. On va l'accomplir avec fidélité. Amen. J'écoutais, on parle de jour J aujourd'hui, mais le jour J, vous savez que les premiers soldats qui sont arrivés étaient des parachutistes. Et il y avait aussi des avions sans moteur, on appelle ça les gliders, je ne sais pas comment dire ça, qu'ils ont traîné en arrière des avions avec les moteurs et qu'ils ont laissé ça glider, planer jusqu'à la terre. Et il y avait des parachutistes qui sont arrivés en arrière des lignes de l'ennemi. Ça, c'est quelque chose, n'est-ce pas? Dans la noirceur. Imaginez, hein, descendre, flotter sur la terre avec des centaines de livres et dans la noirceur, sachant que ça se peut qu'il y ait des personnes qui sont prêtes à tirer. C'est quelque chose. Quel courage. Mais vous savez, il y avait des personnes que j'ai jamais pensé à ça avant l'autre jour quand j'écoutais un documentaire. Que les personnes qui pilotaient l'avion avaient besoin d'avoir autant de courage que les gens qui allaient sauter. Et le rôle qu'ils avaient à jouer, même s'ils n'ont pas tiré sur les gens, même s'ils n'ont jamais planté leurs pieds sur la terre de la France, ils étaient dans l'air, mais quand même ces hommes avaient un rôle important à jouer. Et le navigateur de l'avion avait besoin d'attendre jusqu'au bon moment. Il y avait seulement une marge d'à peu près 2 ou 3 secondes, même pas plus que 2 ou 3 secondes. Et là, quand ils étaient exactement au bon endroit, ils pesaient sur un bouton qui faisait flasher une lumière verte qui disait aux soldats dans l'avion, c'est le temps de sauter, saute, 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 saute. Mais vous savez, ceux qui avaient du courage et ceux qui étaient fidèles à leur poste, ça fait toute la différence entre la victoire et le succès pour ces soldats. ceux qui avaient les nerfs de l'enfant, on dirait, et qui ont attendu, même s'il y avait le flak, je ne sais pas comment dire ça, les explosions autour de l'avion et tout, même s'ils étaient sous le feu de l'ennemi, ceux qui avaient bravé le feu de l'ennemi jusqu'aux dernières minutes pour peser les boutons au bon moment, les soldats de ces avions sont arrivés au bon endroit. Ils ont réussi. Mais il y a d'autres qui ont eu peur. Ils ont dit, mais écoute, je veux juste m'en aller, je veux retourner en Angleterre aussi vite que possible. Et puis, au lieu d'attendre le bon moment, quand le feu de l'ennemi commençait, ils avaient peur, ils ont pesé sur le bouton, les gars sont sautés, plusieurs sont attirés dans les eaux, se sont noyés, il y a plusieurs personnes. Mais ceux qui ont été fidèles, dans les petites choses, ont fait une différence. C'était une question de la vie et la mort pour les autres. Amen. Laisse-moi vous dire, vous dites, mais qu'est-ce que ça donne, hein, si je travaille dans la pouponnière, ou si je travaille dans le ministère des champs, ou si je suis fidèle dans n'importe quoi que le Seigneur te demande de faire. Laisse-moi vous dire qu'il faut que vous soyez fidèle à votre poste, il faut que vous fassiez qu'est-ce que le Seigneur vous demande de faire, même si vous croyez que c'est petit, parce que ça peut faire la différence entre la victoire et le succès. Amen. Il y avait des hommes, j'ai lu une histoire d'un gars qui est arrivé, et il s'est exposé d'avoir peut-être 100 personnes pour aller attaquer un emplacement de l'ennemi. Mais quand ils sont arrivés, parce que quelques pilotes ont paniqué et ont pesé le bouton à la mauvaise place, ils se sont rendus compte qu'on n'est que peut-être une trentaine, même pas une trentaine, peut-être moins de 10 personnes. On est supposé d'être 100, on est juste 10. Qu'est-ce qu'on va faire? On a une mission. Ils ont dit, on y va quand même. Imaginez. Vois-tu la fidélité de ces soldats? Ils étaient supposés d'être 100, mais même si on est 10, on y va quand même. Et je vois ça dans la lumière de qu'est-ce que Paul a dit. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Soyez un homme, un soldat qui est plein de vaillance, qui a du courage. Soyez un soldat qui est fidèle à sa poste. Amen. Et si on a une armée vaillante, et si on est des soldats fidèles, on va gagner. Amen. Alléluia. On va finir ici avec le troisième caractéristique d'un bon soldat de Jésus-Christ. C'est le sacrifice. Tout le monde dit le sacrifice. Soyez prêts à tout donner afin d'assurer la victoire. Soyez prêts à tout donner afin d'assurer la victoire. Comme j'ai dit, il y a des milliers d'hommes qui ont donné leur vie, qui ont versé leur sang pour nous donner la liberté aujourd'hui. Et ils étaient prêts à le faire pour une bataille naturelle. Mais nous, nous sommes dans une bataille spirituelle. Est-ce que nous sommes prêts, spirituellement parlant, à donner tous, de faire tout ce qui est nécessaire pour gagner le combat? Est-ce que vous êtes prêts? Je pense qu'on a besoin d'examiner notre cœur. La Bible dit, encore, est-ce que ça veut dire que Dieu veut qu'on souffre et que Dieu veut qu'on fasse des sacrifices juste pour lui faire plaisir? Non, 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 non. Dieu veut qu'on soit béni, Dieu veut qu'on soit heureux dans la vie, mais Dieu veut aussi qu'on soit prêt à tout mettre sur l'autel. La Bible dit que comme des sacrifices vivants, on est supposé de se présenter devant Dieu comme des sacrifices vivants. Dieu ne veut pas qu'il y ait des sacrifices morts. Oui, il y a quelques hommes et quelques femmes qui vont être demandés. Dieu va leur demander de donner leur vie physique. Ils vont être obligés de mourir physiquement pour l'Évangile. Et ça, c'est une chose. La Bible dit que les gens qui donnent leur vie pour le Seigneur physiquement vont avoir une meilleure résurrection. Amen. Donc ça, c'est une chose. Mais la plupart de nous ne seront jamais obligés de donner notre vie physique. Mais Dieu nous demande tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons pour gagner le combat. Amen. L'Église n'est pas un club. L'Église, c'est la famille de Dieu. Dieu a un plan pour sa famille. Et Dieu veut qu'on fasse qu'est-ce qu'il nous a destiné à faire. Il veut qu'on saisisse notre destinée. Ça va prendre la vaillance. Ça va prendre la fidélité. Et ça va prendre également, quoi? Le sacrifice. On ne va pas avoir des résultats qu'on veut avoir sans faire des sacrifices. Amen. C'est-à-dire qu'il faut dire comme Jésus, « Seigneur, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. » Et qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que quand on offre nos vies à Jésus comme un sacrifice vivant, vous savez, quand on prend notre croix et on perd notre vie, qu'est-ce qu'on trouve? Sa vie. Paul a dit, j'ai été crucifié avec Jésus-Christ, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et laisse-moi vous dire, c'est beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus excitant de vivre avec Jésus à l'intérieur de nous que de vivre pour nous-mêmes. 2 Corinthiens chapitre 5, j'aime tellement, c'est pas dans vos notes, mais on va le lire, hein? 2 Corinthiens chapitre 5, et on va finir avec ça. Alléluia. 2 Corinthiens. C'est un peu différent ce matin, n'est-ce pas? Mais c'est bon, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que moi, je ne sais pas ce qui vous concerne, mais je ne veux pas passer une autre année, une autre 2 ans, comme je suis aujourd'hui. Je ne veux pas que l'Église, dans 1 an de temps ou dans 2 ans de temps, soit comme elle est aujourd'hui. Et vous? Je ne veux pas que le monde soit comme elle est aujourd'hui. Je veux être changé afin que je puisse saisir ma destinée et afin que je puisse contribuer au dessein de Dieu dans ma génération. Et ça va prendre la vaillance, la fidélité, et ça va prendre aussi le sacrifice. Amen? Il n'y a pas de raccourcis dans le royaume de Dieu. Dieu demande tout. Tout. Mais c'est merveilleux parce que quand on lui donne tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, savez-vous qu'est-ce que nous recevons en retour? Tout ce qu'il est et tout ce qu'il a. Wouh! Ça, c'est une bonne affaire. Donne-moi tout ce que tu as et tout ce que tu es et je te donnerai tout ce que j'ai et tout ce que je suis. Laisse-moi vous dire, c'est nous qui sommes vraiment sur le bon côté dans cette affaire. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14. Car l'amour de Dieu de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent, combien de vous vivez ce matin? Hein? Il n'y a personne qui est décédé pendant mon message? Bon, tant mieux. Afin que ceux qui vivent, tout le monde dit, je vis. Hein? Regardez votre voisin ou votre voisine et dit, vous vivez aujourd'hui. Et là, on va voir pourquoi vous vivez. Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ça, c'est le plan de Dieu, n'est-ce pas? Si Dieu veut qu'on vive pour lui et pas pour nous-mêmes, qu'est-ce que cela veut dire? Dans les choses pratiques, examinez votre cœur aujourd'hui, examinez votre vie dans la lumière de ce verset. Est-ce que vous vivez pour Jésus comme un bon soldat? Parce que si vous ne vivez pas comme un bon soldat, avec la vaillance, avec la fidélité, en faisant les sacrifices nécessaires, vous ne serez jamais capable de saisir votre destinée dans le royaume de Dieu. Vous ne serez jamais à mesure de servir le dessein de Dieu dans cette génération. Amen? Alléluia! Alléluia! Et n'est-ce pas merveilleux de savoir que Dieu nous donne la grâce nécessaire de faire qu'est-ce qu'il nous demande? Si Dieu nous demande de faire quelque chose, il nous donnera la grâce. On n'est pas obligé de le faire nous-mêmes. Alléluia. Le courage dont j'ai parlé, c'est Jésus qui vit en nous, qui nous donne le courage. C'est pourquoi on peut dire, je suis un vaillant héros, parce que Dieu me voit comme un vaillant héros, parce qu'il est avec moi, et maintenant il est même en moi. Je suis fidèle, pourquoi? Parce que la fidélité fait partie du fruit de l'Esprit. Amen. Et par la foi, je peux saisir le fruit de l'Esprit et dire, merci Seigneur que je suis fidèle. Même si je n'ai pas le goût d'être fidèle, même si j'ai le goût de lâcher, même si j'ai le goût d'oublier toutes les choses que tu m'as demandé de faire, je vais continuer, je vais être fidèle. Ça prend le courage pour faire la volonté de Dieu. Et encore, je ne parle pas juste de prêcher, ça prend le courage pour rester dans un mariage, pour continuer au travail. Ça prend du courage, ça prend la fidélité et ça prend aussi les sacrifices. Amen. Et si Dieu s'est donné lui-même pour moi, je ne sais pas, mais quand je pense à Jésus et tout ce qu'il a donné pour moi sur la croix, quand je pense au sacrifice qu'il a fait pour moi, je ne sais pas, mais ça me donne plus le goût, la motivation. Quand je médite le sacrifice qu'il a fait. Amen. Comme Paul a dit, il a dit quand il était en route pour Jérusalem, il a dit que maintenant je vais lier par l'Esprit à Jérusalem. Je pense que c'est même dans vos notes. Alléluia. et dit, je vais à Jérusalem ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Je ne sais pas ce qui vous concerne, mais j'aime pas lire les versets comme ça dans la Bible. Est-ce que vous aimez les versets comme ça? Combien de vous, sur votre frigidaire à la maison, vous avez ce verset? Non, vous avez les versets comme « Je puis tout par celui qui me fortifie, par les meurtrissures duquel j'ai été guéri. » Amen. Voici les versets qu'on met, et ce sont des bons versets. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Voici les genres de versets qu'on aime mettre sur notre frigidaire, et on a raison d'aimer ça, parce que ce sont les promesses de Dieu. Amen. Mais, ici, il dit que « L'Esprit Saint m'a averti que des liens et des tribulations m'attendent, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Hallelujah! « Pourvu que j'accomplisse, » on dit « accomplisse. » « Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. » Ouh! C'est pas triste. C'est pas une chose attristante de saisir la destinée et même de faire les sacrifices. Savez-vous que c'est une chose agréable de faire les sacrifices pour la volonté de Dieu? Amen. Et c'est ça que ça va prendre. Dieu veut tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Tout notre temps. Tout notre temps. Tous nos trésors. Amen. Et tous nos talents. Il veut tout. Et si on donne comme un sacrifice vivant toutes ces choses, nos trésors, notre temps, nos talents, notre temps, là, on va pouvoir saisir notre destinée, faire la volonté de Dieu et voir l'accomplissement de son plan. On va servir le dessein de Dieu dans notre génération. Et après, on va mourir. Amen. Pas avant, après. C'est pourquoi j'ai cette conviction. Je suis vraiment, indestructible. Indestructible. Mon français n'est pas terrible. Mais indestructible jusqu'au moment. Aussi longtemps que je marche dans la parole, je marche dans l'autorité de Jésus-Christ, je marche dans l'amour, dans la protection de Dieu. Aussi longtemps que je fais la volonté de Dieu, je suis indestructible jusqu'au moment où je peux dire avec Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Amen. Le Seigneur peut m'envoyer à des places dangereuses, je peux avoir du courage jusqu'au moment où j'ai accompli ma tâche, je ne vais pas mourir. Amen. Je vais vivre, pas pour moi-même, mais pour lui. On va se lever debout et on va prier. Peut-être Tanya peut venir jouer. C'est une exhortation de la parole de Dieu ce matin. Et je sais que vous n'êtes pas des auditeurs oublieux, mais vous êtes ceux qui vont mettre en pratique la parole. Amen. Combien de bons soldats de Jésus-Christ est-ce que nous avons ici ce matin? Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. On va prier. On va laisser le Saint-Esprit agir ce matin. Alléluia. La vaillance, la fidélité, le sacrifice. La vaillance, la fidélité, le sacrifice. C'est ça que ça va prendre pour nous afin de pouvoir saisir notre destinée, accomplir le plan de Dieu dans notre génération. Au nom de Jésus. Merci Père Céleste. On va juste fermer les yeux, baisser les têtes pour quelques minutes ce matin. Alléluia. Père Céleste, je te remercie pour cette parole. C'est toi qui as inspiré Paul quand il a écrit à Timothée en disant « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Et Seigneur, nous voulons prendre la décision aujourd'hui de développer le courage et le caractère des bons soldats. Nous n'avons pas peur de faire face à l'ennemi parce que l'ennemi est déjà vaincu et parce que tu es avec nous. Nous prenons la décision d'être fidèles à chaque mission. On ne va pas, Seigneur, faire des compromis, mais on va être fidèles à chaque mission que tu nous confies. Et Seigneur, on va faire des sacrifices nécessaires pour voir l'accomplissement de ton plan. On t'offre, Seigneur, nos temples. On t'offre notre temps. On t'offre, Seigneur, nos talents et notre trésor. tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, Seigneur. C'est ça que ça va prendre pour voir l'accomplissement et la réalisation de ton dessein dans notre génération. J'aimerais juste que vous preniez quelques minutes là où vous êtes. Fermez les yeux et peut-être juste dans votre cœur, faites un genre de cercle autour de vous et juste entre toi et le Seigneur. Parle avec lui. Demande-lui, Seigneur, est-ce qu'il y a des choses que j'ai encore besoin de changer? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai encore besoin de te confier? Est-ce que je garde en réserve un peu de moi-même? Est-ce que je vis pour moi-même au lieu de vivre pour toi? Posons-nous ces questions ce matin. Consacrons-nous à lui, à son service. On va servir, alléluia, le dessein de Dieu dans notre génération. Et ensuite, après avoir fini notre course, là, on va pouvoir mourir et aller être avec le Seigneur, à moins que Jésus vienne avant pour nous chercher dans les airs.